Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point.
La Voix de l'Indonésie. Les informations.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. Le président indonésien veut développer Antikong comme centre économique. Le Parlement soutient la note de protestation de l'Indonésie contre la Chine. L'Indonésie approfondit la coopération e-commerce avec la Chine. L'Indonésie prépare l'accord de coopération maritime et l'enseignement supérieur avec les Pays-Bas. Le consulat de Ramallah renforce les relations économiques entre l'Indonésie et la Palestine. La ministre de l'Environnement a reçu la visite de l'ambassadeur de la Norvège et du Danemark. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo veut développer Antikong situé au centre de la frontière entre l'Indonésie et la Malaisie comme nouveau centre de l'économie moderne. Le président Joko Widodo, lors d'observer la pose frontalière d'Antikong dans la région de l'ouest de Kalimantan, récemment a exprimé son souhait que les postes frontières en Indonésie étaient la fierté. Le président espère que le développement des infrastructures n'est pas seulement concentré à Java, mais aussi à la banlieue, y compris la zone frontalière et les points de la croissance économique ne sont pas seulement Java-centriques, mais aussi aux banlieues comme Kalimantan, Nusa Tenggara Oriental et la Papouasie. Le vice-président du Parlement, M. Fadlizon, soutient la protestation du gouvernement indonésien à travers la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, au gouvernement chinois, car il est considéré d'avoir violé la souveraineté de l'Indonésie et entrave à l'arrestation KM Kwai Fei. Et Fadlizon a déclaré jeudi, bien qu'il y ait eu un incident à Natuna, la note de protestation au gouvernement de la Chine était la bonne chose parce que la souveraineté doit être défendue. Si ce problème n'est pas résolu, il deviendra une habitude où on a pris la région dans la zone économique exclusive. Selon Fadlizon, l'Indonésie doit être consistant pour faire face à des choses comme ça parce qu'il y a la possibilité que cela pourrait se produire à nouveau. Auparavant, le gouvernement indonésien a envoyé la note de protestation au gouvernement chinois liée à l'entrée du navire de pêche KM Kwai Fei 10078 et le navire de garde-côte de la Chine dans les eaux de Natuna, la province des îles de Riau. Le ministre indonésien du Commerce, M. Thomas Limbong, a déclaré que le gouvernement continuait à approfondir la coopération e-commerce avec la Chine pour augmenter les exportations des produits excellents de l'Indonésie vers ce pays. En marge du forum de Buao à Hainan en Chine, cité par Antara, Thomas Limbong a déclaré jeudi que la Chine était le premier partenariat commercial pour environ 120 pays, y compris l'Indonésie. Il a expliqué que les exportations de l'Indonésie vers la Chine seront maximisées à travers des plateformes de négociation électronique provenant de Chine, telles que Alibaba, Tencent et WeChat. Actuellement, les produits alimentaires et de boissons de l'Indonésie sont commercialisés à l'échelle mondiale à travers Alibaba.com, à la fois d'entreprise à entreprise ou d'entreprise à consommateur. Cependant, l'ambassadeur indonésien en Chine, M. Sugeng Raharjo, a affirmé que la coopération avec Alibaba Group était l'un des efforts pour pénétrer le marché chinois, surtout le marché mondial en général. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a mené une réunion avec le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Bert Koenders, pour discuter, entre autres, la finalisation du mémorandum d'entente de la coopération dans certains domaines. Retno Marsudi a expliqué les deux accords qui étaient en cours de finalisation liés à la coopération maritime et l'enseignement supérieur. Retno Marsudi a ajouté que l'Indonésie établissait la coopération avec les Pays-Bas dans divers secteurs, ayant du commerce, l'éducation, des événements jusqu'à la gestion des ressources en eau. Madame Retno Marsudi espère, en grâce à cette réunion, à l'avenir, les investisseurs néerlandais en Indonésie continuent d'augmenter, surtout dans le secteur maritime. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, souhaite le consulat à Ramallah en Palestine, qui a été ouvert au début de 2016, puisse améliorer les relations économiques entre l'Indonésie et la Palestine. Il a déclaré jeudi que l'une des fonctions de consulat à Ramallah est d'améliorer les relations économiques et socio-culturelles. Il a expliqué que le consul honoraire de l'Indonésie à Ramallah était une femme d'affaires qui était connue dans la région. Il espère que les relations commerciales entre les deux pays augmentent. Armanata Nasir a également déclaré que la fonction du consulat est de donner la protection et l'assistance aux citoyens indonésiens. Le gouvernement indonésien apprécie le gouvernement de la Norvège dans le soutien du programme indonésien pour lutter contre le changement climatique, notamment le rôle des forêts de l'Indonésie dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à savoir par des activités REDD+ et le développement économique à faible en carbone. Cela a été dit par la ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya, quand elle a reçu la visite de l'ambassadeur de la Norvège à l'Indonésie, Stig Travik, à Jakarta jeudi. À cette réunion, la ministre Siti Nurbaya a informé les efforts qui ont été faits par le ministère de l'Environnement et des Forêts pour empêcher les incendies des forêts et des terres. Pour anticiper les incendies des forêts et des terres, le ministère de l'Environnement invitera Stig Travik à la réunion de travail national dirigée par le président Joko Widodo à Jambi le 5 avril 2016. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
C'est examen lointain. Pour le suivant, voici donc le commentaire et pour le titre, les attentats à la bombe au Bruxelles. Le succès des autorités de sécurité belges d'arrêter un bombardier de Paris pourrait être une étape importante dans la lutte contre les actions de terreur, non seulement en Belgique et en Europe, mais aussi dans de nombreux pays, y compris l'Indonésie. Mais l'arrestation des auteurs de terreur n'est pas la fin des efforts conjoints pour envisager les actes en humain qui n'est pas en conformité avec les enseignements de nos protocoles religieux. Les dirigeants ont fait une déclaration commune sévère que l'attaque à Bruxelles en Belgique est une attaque contre la démocratie. Ils ont confirmé que cette erreur ne renforce que leur détermination à défendre les valeurs européennes. Par conséquent, ils seront unis et fermes dans la lutte contre la haine, l'extrémisme ignoble et le terrorisme. Cet engagement est important non seulement pour l'Union européenne, mais pour tous les pays qui sont des cibles potentielles d'attaques terroristes. L'Indonésie est l'un d'entre eux et continue à travailler plus dur pour lutter contre le radicalisme et le terrorisme. Même, l'Indonésie a déclaré fermement de rejeter ISIS qui a revendiqué la responsabilité de l'attentat de Bruxelles. L'unité contre le terrorisme ne se manifeste pas seulement sous la forme d'empathie lorsque l'acte de terreur se produit qui a causé les victimes mortes et blessées, mais aussi dans les efforts de prévention et d'éradiquer les actes de terrorisme. Ceci est très important parce qu'avec l'arrestation des suspects et des terroristes, la menace n'a pas pris fin automatiquement. Un expert américain anti-terrorisme, Clint Watts, lors de la réponse à un attentat à la bombe à Paris, a affirmé la théorie « les banquises de glace » du plan de terreur. Il fait valoir une attaque de terroristes, il peut être une partie dans notre plan qui est plus grand. Le succès d'arrêter les auteurs de la terreur ne peut pas encore être considéré de résoudre le problème. Ce qui se passe en Belgique a confirmé l'opinion de Clint Watts. Autour d'une semaine précédente, l'Europe apprécie les autorités de sécurité belges qui ont arrêté les principaux suspects des attentats de Paris qui ont fui vers la Belgique. Abdesalam est arrêté avec un certain nombre de ses adeptes à Molenbeek, une région en Belgique. Moins d'une semaine après l'arrestation, il y avait la terreur à Bruxelles. Par conséquent, la coopération entre les pays est très importante d'anticiper et de lutter contre le terrorisme. L'action n'a pas été tout à fait terminée peu de temps comme réaction de l'apparition d'actes de terreur, mais il faut faire conjointement, cohérent et durable. La déclaration d'ISIS qui a revendiqué derrière la terreur de la Belgique est devenue la base d'une action commune pour surmonter les actes terroristes qu'ils sont faits. Serge Thor, c'était le commentaire de La Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Cher ami, bonsoir. Nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui du 25 mars. Le 25 mars 1985, Sindu Darsono Sujoyono, le père de la peinture moderne d'Indonésie, est décédé. Sindu Darsono est le pionnier qui a développé la peinture moderne typique d'Indonésie. La communauté d'artistes l'appelle Pak John. Le surnom de Sindu Darsono, père de la nouvelle peinture d'Indonésie. Pak John est l'un des fondateurs de l'Association des peintres d'Indonésie à Jakarta en 1937, étant le début de l'histoire de la peinture moderne en Indonésie. Sindu Darsono Sujoyono est mort le 25 mars 1985 en raison d'une maladie qu'il a souffert. Le 25 mars 1994, les États-Unis ont été contraints de retirer ses troupes de Somalie après que ce pays a perdu. Après la chute du régime Muhammad Siad Barre, un accord pour former un gouvernement de coalition en Somalie a frappé une impasse, suivie par la guerre civile. Au décembre 1992, afin de protéger ses intérêts, les États-Unis ont envoyé ses troupes en Somalie comme une partie de la force des Nations Unies. Mais les troupes américaines ont obtenu la résistance du peuple de Somalie. Des centaines de Somaliens sont morts. Cependant, 100 soldats américains ont été tués. Voyant cette situation, les États-Unis ont décidé de se retirer de la Somalie. Le 25 mars 1995, Ward Cunningham a créé le premier site Wiki. WikiWikiWeb est le premier nom de logiciel Wiki dans le cyberspace. WikiWikiWeb est une présentation pour Portland Pattern Repository, une entreprise qui collecte des modèles de conception de logiciels. Cunningham est l'inventeur d'idées et créateur de la première application de Wiki du moteur. WikiWiki vient du thème hawaïen pour rapide ou ultra rapide. Cher ami, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers frères auditeurs, auditrices, bonsoir. Voici donc la mise au point ayant pour le titre « L'Indonésie a condamné l'action de terreur de Bruxelles ». Trois attentats à la bombe ont eu lieu à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek, Bruxelles, en Belgique, mardi matin, heure locale, quelques jours après que la police belge ait arrêté un suspect majeur de terreur en France, Salah Abdeslam. À cause de cette explosion, d'environ 34 personnes ont été tuées et 200 autres blessées. Le gouvernement belge a fixé immédiatement un état d'arrêt des 4, le plus dangereux d'un niveau avant la loi martiale pour toute la Belgique. Les chefs d'État ou de gouvernement dans diverses parties du monde, y compris l'Indonésie, ont fermement condamné les actes de terreur de Bruxelles. Le gouvernement indonésien a exprimé sa profonde sympathie et ses condoléances aux victimes de bombardements à Bruxelles. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, par le biais des réseaux sociaux, mercredi 23 mars, a confirmé que l'Indonésie a fait fermement condamner l'attentat à la bombe. L'Indonésie a invité la communauté internationale à travailler ensemble pour surmonter l'action de terrorisme. En tant que pays ami, le président Joko Widodo a exprimé son soutien de l'Indonésie pour la Belgique dans la lutte contre le terrorisme. L'Indonésie réaffirme que le terrorisme, sous quelque forme et pour n'importe quelle raison, ne peut pas être toléré. Pendant ce temps, le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Armanata Kristawanasir, à Nusa Dua, Bali, a déclaré mercredi, sur la base des informations de l'ambassade d'Indonésie à Bruxelles, trois citoyens indonésiens ont devenu les victimes blessées dans un attentat à Bruxelles, en Belgique. Il a mentionné, ces victimes étaient une femme de citoyen indonésien et ses deux enfants qui étaient à l'aéroport de Zaventem car ils attendent un vol pour un voyage en Indonésie. Cette fois, une mère et ses deux fils sont traités intensivement à l'hôpital universitaire de Louvain. Il a expliqué que l'ambassade d'Indonésie en Belgique a cherché la clarification sur le statut de la citoyenneté des trois citoyens indonésiens victimes de l'explosion d'une bombe, parce que la nationalité du mari de la femme est belge. L'ambassade d'Indonésie en Belgique continue également de communiquer avec la communauté des citoyens indonésiens et la diaspora indonésienne en Belgique et au Luxembourg pour trouver l'information s'il y a d'autres citoyens indonésiens qui sont les victimes. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a également lancé un appel aux citoyens indonésiens d'être vigilants toujours et éviter les endroits sujets à des attaques de bombes. À cet égard, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a exprimé ses condoléances sur le bombardement qui a eu lieu à Bruxelles, en Belgique. Dans son discours prononcé à l'ouverture de la 6e réunion ministérielle du processus de Bali, mercredi à Nusa Dua, Bali, Retno Marsudi a exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple de la Belgique, et aussi aux familles et aux victimes de cette terreur de bombe. Il a également souligné que le gouvernement indonésien a condamné fermement cette erreur de bombe et a invité les pays participants du processus de Bali et la communauté mondiale à s'unir contre tous les actes de terrorisme. Pendant ce temps, le vice-président Yusuf Kalla a appelé les citoyens indonésiens en Europe et au Moyen-Orient d'être prudents après l'explosion de Bruxelles. Il a également appelé tous les citoyens qui sont en dehors du pays de rapporter immédiatement au bureau de représentants de l'Indonésie, par intermédiaire l'ambassade ou le consulat général local, s'ils trouvent des symptômes suspects aux alentours. Les citoyens indonésiens doivent augmenter leur vigilance en raison de la terreur qui pourrait se produire partout. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
Le président indonésien Joko Widodo veut développer un Antikong situé au centre de la frontière entre l'Indonésie et la Malaisie comme nouveau centre de l'économie moderne. Le président Joko Widodo, lors d'observer la pose frontalière d'Antikong dans la région de l'ouest de Kalimantan, récemment a exprimé son souhait que les postes frontières en Indonésie étaient la fierté. Le président espère que le développement des infrastructures n'est pas seulement concentré à Java, mais aussi à la banlieue, y compris la zone frontalière et les points de la croissance économique ne sont pas seulement Java-centriques, mais aussi aux banlieues comme Kalimantan, Nusa Tenggara orientale et la Papouasie. Le vice-président du Parlement, M. Fadlizon, soutient la protestation du gouvernement indonésien à travers la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, au gouvernement chinois, car il est considéré d'avoir violé la souveraineté de l'Indonésie et entrave à l'arrestation KM Kuaifei. Et Fadlizon a déclaré jeudi, bien qu'il y ait eu un incident à Natuna, la note de protestation au gouvernement de la Chine était la bonne chose parce que la souveraineté doit être défendue. Si ce problème n'est pas résolu, il deviendra une habitude où on a pris la région dans la zone économique exclusive. Selon Fadlizon, l'Indonésie doit être consistante pour faire face à des choses comme ça parce qu'il y a la possibilité que cela pourrait se produire à nouveau. Auparavant, le gouvernement indonésien a envoyé la note de protestation au gouvernement chinois liée à l'entrée du navire de pêche KM Kuaifei 10078 et le navire de cargo de la Chine dans les eaux de Natuna, la province des îles de Riau. Le ministre indonésien du Commerce, M. Thomas Lembong, a déclaré que le gouvernement continuait à approfondir la coopération e-commerce avec la Chine pour augmenter les exportations des produits excellents de l'Indonésie vers ce pays. En mars du forum de Buao à Hainan en Chine, cité par Antara, Thomas Lembong a déclaré jeudi que la Chine était le premier partenariat commercial pour environ 120 pays, y compris l'Indonésie. Il a expliqué que les exportations de l'Indonésie vers la Chine seront maximisées à travers des plateformes de négociation électronique provenant de Chine, telles que Alibaba, Tencent et WeChat. Actuellement, les produits alimentaires et de boissons de l'Indonésie sont commercialisés à l'échelle mondiale à travers Alibaba.com, à la fois d'entreprise à entreprise ou d'entreprise à consommateur. Cependant, l'ambassadeur indonésien en Chine, M. Sugeng Raharjo, a affirmé que la coopération avec Alibaba Group était l'un des efforts pour pénétrer le marché chinois, surtout le marché mondial en général. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a mené une réunion avec le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Bert Koenders, pour discuter, entre autres, la finalisation du mémorandum d'entente de la coopération dans certains domaines. Retno Marsudi a expliqué les deux accords qui étaient en cours de finalisation liés à la coopération maritime et l'enseignement supérieur. Retno Marsudi a ajouté que l'Indonésie établissait la coopération avec les Pays-Bas dans divers secteurs ayant du commerce, l'éducation, des événements jusqu'à la gestion des ressources en eau. Madame Retno Marsudi espère, en grâce à cette réunion, à l'avenir, les investisseurs néerlandais en Indonésie continuent d'augmenter, surtout dans le secteur maritime. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, souhaite le consulat à Ramallah en Palestine, qui a été ouvert au début de 2016, puisse améliorer les relations économiques entre l'Indonésie et la Palestine. Il a déclaré jeudi que l'une des fonctions de consulat à Ramallah est d'améliorer les relations économiques et socio-culturelles. Il a expliqué que le consul honoraire de l'Indonésie à Ramallah était une femme d'affaires qui était connue dans la région. Il espère que les relations commerciales entre les deux pays augmentent. Armanata Nasir a également déclaré que la fonction du consulat est de donner la protection et l'assistance aux citoyens indonésiens. Le gouvernement indonésien apprécie le gouvernement de la Norvège dans le soutien du programme indonésien pour lutter contre le changement climatique, notamment le rôle des forêts de l'Indonésie dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à savoir par des activités RED Plus et le développement économique à faible en carbone. Cela a été dit par la ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya, quand elle a reçu la visite de l'ambassadeur de la Norvège à l'Indonésie, Stig Travik, à Jakarta jeudi. À cette réunion, la ministre Siti Nurbaya a informé les efforts qui ont été faits par le ministère de l'Environnement et des Forêts pour empêcher les incendies des forêts et des terres. Pour anticiper les incendies des forêts et des terres, le ministère de l'Environnement invitera Stig Travik à la réunion de travail national dirigée par le président Joko Widodo à Jambi le 5 avril 2016. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé L'île de Kangean. Les îles de Kangean sont situées dans l'est de l'île de Madura, l'est de Java et au nord de l'île de Bali. Ces îles se composent de quelques îles, entre autres l'île de Kangean, de Sapeken, de Saibus et l'île de Mambrut, y compris les trois sous-districts. Et les îles de Kangean ont la superficie de 487 km². Bien que les îles soient incluses dans la région de Sumenep sur l'île de Madura et aussi situées dans le nord de l'île de Bali, il y a beaucoup de différences entre Kangean, Madura et Bali. Les personnes de Kangean se disent que les gens de Kangean. Leur langue est différente de celle de Madura et Bali. Leur dialecte est similaire avec Sundanese et Batak. Outre la belle plage, le paysage sous la mer est aussi beau. Diverses espèces de poissons vivent sous la mer. Même il y a un spot de plongée nommé Ladang Nemo ou le Champ de Nemo. À cet endroit, il y a beaucoup de poissons de clown et anémones. Les gens disent que c'est un paradis pour les poissons de Klompes. Le poisson de Klompes est un autre nom dans la langue locale pour le poisson de clown, ou mieux connu comme poisson de Nemo. Les poissons de Nemo sont drôles, gros et amicaux, parce qu'ils peuvent être tenus dans votre propre main. Il y a aussi le lieu de poissons de Lyon. Mais si vous voulez venir à la place, vous devez être prudent, parce que les poissons de Lyon ont la poison. Sur l'île de Kangean, il y a aussi le récif coral yang magnifique. Grâce à sa beauté, les îles de Kangean se classent la 5e place de meilleur récif de corail en Indonésie. Si vous allez aux îles de Kangen en utilisant le transport en commun de Surabaya, la capitale de Java-Est, vous devez prendre un itinéraire à partir du terminal de Bungurasi ou un terminal Purabaya-Surabaya vers le terminal de bus de Sumenep qui prend environ 4 heures. Et du terminal de Sumenep, vous pouvez louer le transport en commun ou le taxi moto loué au port de Kalianget. Après l'arrivée du port de Kalianget, vous devez prendre un bateau à moteur ou le ferry pour traverser à Kangen qui prend environ 4 jusqu'à 5 heures en utilisant le bateau rapide. Tandis que si vous utilisez le ferry, vous nécessitez 8 heures. Si vous êtes arrivé sur l'île de Kangen, vous pouvez louer un bateau à tourner autour des autres petites îles. D'habitude, le capitaine du navire est aussi le guide. Le prix de location de bateau par jour est 450 000 rupiah, avec la capacité d'environ 10 jusqu'à 15 personnes. Si vous allez vers les îles de Kangen, vous devez faire attention à la météo. Le meilleur moment pour y aller est en avril jusqu'à novembre. N'oubliez pas d'apporter l'argent, parce que sur l'île de Kangen, il n'y a pas de guichet automatique bancaire ou ATM. Il est conseillé de partir pour le terminal de bus Bungurasi Surabaya à 1h jusqu'à 2h de nuit. Donc, le lendemain matin, vous pouvez immédiatement prendre le bateau vers Kangen. Si vous voulez faire de la plongée, il est conseillé d'apporter votre propre matériel parce qu'à Kangen, il n'y a pas de location de matériel de plongée en apnée. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix d'Irmizi, diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans l'Indonésie en couleurs. Pour l'édition ce soir, nous vous informons l'inauguration de l'aéroport Silangit. Chers auditeurs, le 22 mars, l'aéroport de Silangit a été ouvert officiellement. L'inauguration de nouvel aéroport au nord de Sumatra rend facile certainement les touristes étrangers et nationaux pour visiter et profiter la beauté du lac Toba. L'ouverture du nouvel aéroport vise à faire succès le programme gouvernemental dans le développement de la destination touristique du lac Toba comme l'une des 10 destinations touristiques prioritaires en Indonésie et à encourager la croissance économique et le développement à Silangit et le nord de Sumatra en général. Serviteur, Garuda Indonesia est la première compagnie aérienne à desservir régulièrement la route Jakarta-Silangit. Le vol est effectué mardi, mercredi et vendredi à l'aide d'une flotte de bombardiers CRJ-100 qui a une capacité de 96 passagers. Contrairement à la route directe Jakarta-Silangit, les vols à l'inverse doivent être effectués avec le transit à l'aéroport de Sibolga, Tapanuli Central. Ceci est fait pour augmenter les passagers de Sibolga qui est encore faible. Avec l'ouverture de l'aéroport de Silangit, l'accès au lac Toba serait plus facile. Avant l'ouverture de cet aéroport, les touristes n'ont pas été en mesure d'effectuer des vols directs dans la région du lac Toba. Ils doivent utiliser la voie terrestre de Medan qui prend le temps de 6 à 7 heures. Mais avec l'ouverture de l'aéroport de Silangit, ils peuvent voler directement de Jakarta à l'aéroport de Silangit qui nécessite le temps d'environ 1h30. De l'aéroport de Selangit au lac Toba prend seulement 1 heure. L'aéroport de Selangit a été construit au cours de l'occupation japonaise, situé à Siborong-Borong, Tapanuli du Nord, en province du Nord de Sumatra. L'aéroport dispose la taille d'une piste de 2 400 m × 30 m. Jusqu'à présent, seulement les petits avions peuvent atterrir à l'aéroport à ce plateau. À l'avenir, la piste de l'aéroport sera élargie à 2500 mètres. En outre, l'aéroport qui sera exploité par PT Angkasa Pura II sera également volé d'autres compagnies aériennes avec la même route. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers fidèles amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, voici le magazine de Pelangi Nada ou magazine de musique édition de vendredi. Et vous pouvez écouter notre programme par longue courte 9525 kHz ou bien streaming à www.voi.co.id ou bien avec l'application de RRI Play sur votre gadget ou portable. Et pour ce soir, on vous introduit la chanteuse de rythme de dangdut, Samila Cahya. Bon, comme le début de notre rencontre, écoutez d'abord la chanson de Samila Cahya intitulée « Cinta tak direstui ». Bonne écoute. Servida Zami, set sang song cinta tak direstui, rakong kila enggar song ki em song ami. Me elas el shua lotre gar song ke lui, kar le perang de fi nempa le relasong afek lui. Sambil cahaya, wusafe, elene a Bandung, o 6 Juye 1982. Depui sa petit, elem la danse tradisional Sundanese Jaipong. Pui a l'école secondaire, elle commence à santé. Alors, chers auditeurs, avant de continuer notre bavardage, écoutez encore l'autre chanson de Samila Cahya intitulée Galau. Bonne écoute.
Memang tampan, tapi dia menjengkelkan. Tak pernah perhatian, sungguh sangat menyebalkan. Pacarku memang gagah, tapi dia banyak tingkah. Seringkali buat ulah, bikin aku naik darah. Yang ada hanya masalah.
Chers amis, Samila Cahya commence à sa carrière comme chanteuse en 1997 en lançant un album traditionnel sundanais dont le titre est Melati. Plus tard, elle a encore publié des albums, bien sûr. Dans son nouvel album, Cinta Tak Direstui, lancé en 2013, elle a du succès. Et vous savez, plus tard, après le succès dans le monde musical, Samila Cahya essaie d'être actrice. Elle joue dans certains films télévisés et le grand écran. Chers amis, voilà, c'était l'histoire de chanteuse de dangdut Samila Cahya. Bon, avant de terminer notre rencontre, allez écouter les deux dernières chansons de Samila Cahya intitulées Butuh Uang et Cinta Musiman. Bonne écoute et au revoir.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.